Salut l'équipe! Et si je vous parlais un peu de droit, ou plutôt de culture juridique, ça vous tente? En fait, peu importe votre avis, car moi ça me branche bien de vulgariser le droit et de développer la culture juridique pour le plus grand nombre. À la croisée des chemins entre références historiques, applications pratiques et notions théoriques, je vous propose de m'accompagner afin d'essayer de simplifier la compréhension de nos notions juridiques avec, si possible, un ton léger et un peu d'humour. Je suis Thomas Lubert et je vous souhaite la bienvenue dans Juris Vulgaire, le podcast de vulgarisation juridique. Tu veux me donner un petit coup de pouce, donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout, ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute.
Excusez-moi, j'ai une journée de retard cette semaine, désolé. L'épisode ne sort pas mercredi matin, mais jeudi matin. Je m'en excuse, c'est un petit peu compliqué pour en ce moment. Voilà, je voulais juste faire un petit aparté. Pardon pour ce petit retard. Allez, bonne écoute. Les opérations PlaceNet du gouvernement ont été à la une de l'actualité. Elles sont le reflet visible de la lutte qu'entend mener l'exécutif contre le trafic de stupéfiants. Mais que dit le droit vis-à-vis du trafic de stupes? C'est le sujet de l'épisode du jour de Juris Vulgaire. Le trafic de stupéfiants peut prendre des formes variées. Il peut aussi bien concerner des trafics à l'échelle mondiale que la simple détention de drogue douce sur soi. Mais pour être caractérisé, le trafic de stupéfiants doit répondre à des actes et critères spécifiques inscrits aux articles 222-34 et suivants du Code pénal. Mais avant toute chose, il convient de définir ce qu'est un stupéfiant. C'est l'article L5132-7 du Code de la santé publique qui dispose que le stupéfiant sont les plantes, des préparations ou des substances vénéneuses. Un arrêté ministériel en date du 22 février 90 a établi une liste de drogues interdites par la loi, à savoir le cannabis, la cocaïne, les drogues hallucinogènes, les psychostimulants, la MDMA ou encore les opiacés. Une fois défini le terme de stupéfiant, il convient de définir ce qu'est un trafic de stupéfiants aux yeux de la loi. Le trafic de stupéfiants est défini comme l'ensemble des actes se rapportant à la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession et à l'exploitation des stupéfiants. Il convient également de distinguer trafic de stupéfiants et usage, c'est-à-dire la consommation illicite de stupéfiants, puisque le législateur lui-même estime que les usagers, donc les consommateurs de drogue, sont des personnes malades. C'est pourquoi la sanction est allégée. On parle d'une amende d'au moins 200 euros, une amende forfaitaire. Notons ici qu'il y a une expérimentation en France sur l'usage thérapeutique du cannabis pour les personnes atteintes d'une pathologie grave. C'est un décret de 2020. Et dans ce cas-là, évidemment, on n'est pas dans le cadre d'une sanction pénale. Quels sont les délits liés au trafic de stupéfiants et quelles sont leurs sanctions? On va voir point par point quels délits peuvent relever du trafic de stupéfiants. Tout d'abord, la production ou la fabrication de stupéfiants. La production ou la fabrication de stupéfiants sont illicites, évidemment, et elles sont punies par 20 ans de réclusion criminelle et 7,5 millions d'euros d'amende. Je vous rappelle que c'est encore une fois les peines maximales prévues par le Code pénal. Si par ailleurs ces faits sont commis en bande organisée, c'est-à-dire en préparation en groupe ou par entente, la peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle. En effet, la commission de l'infraction en bande organisée vient aggraver le crime initial. C'est une circonstance aggravante. L'importation ou l'exportation de stupéfiants se caractérise lorsqu'une personne achète un produit à l'étranger, même en petite quantité, et le ramène en France. L'exportation correspond à la situation dans laquelle une personne enverrait de la drogue à l'étranger. Tout cela s'est puni par 10 ans d'emprisonnement et 7,5 millions d'euros d'amende. Même principe que pour la fabrication et la production. Si cela est fait en bande organisée, alors on va jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle et 7,5 millions d'euros d'amende. Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants caractérisent un délit. Le délit d'acquisition correspond à l'acte pour une personne de faire acquisition d'un stupéfiant en l'achetant ou en le recevant gratuitement. Le délit de transport, comme son nom l'indique, est la situation où une personne transporte sur elle un stupéfiant dans un endroit à un autre. Le délit de détention est le fait de détenir sur soi ou chez soi des stupéfiants. Le délit d'offre de stupéfiants, quant à lui, est commis lorsqu'une personne donne à une autre la drogue qu'elle a en sa possession. Enfin, la cession de stupéfiants est le fait pour une personne de vendre du stupéfiant à autrui. Tous les délits que je viens de vous citer sont également punis de 10 ans d'emprisonnement et de 7,5 millions d'euros d'amende. De plus, le fait d'en faciliter l'usage par quelque moyen que ce soit ou de se faire délivrer des stupéfiants par ordonnance fictive sont punis des mêmes peines. Passons au délit de la cession ou l'offre de stupéfiants à un usager. Ce délit est puni de 5 ans d'emprisonnement et également jusqu'à 7,5 millions d'euros d'amende. Si celles-ci sont faites à des mineurs, donc si la vente est faite à un mineur, à l'entrée d'un établissement d'enseignement ou dans les locaux d'administration, la peine des auteurs est alors potentiellement portée jusqu'à 10 ans. Il semble également important de noter que les seules tentatives de commettre les différents délits précités sont interdits et sont punies par les mêmes peines applicables à chacun d'entre eux. Donc la tentative de commission est également punie. De fait, la tentative de vente est punie également de 10 ans d'emprisonnement et de 7,5 millions d'euros d'amende. Enfin, dernier délit potentiellement lié au trafic, on va parler du blanchiment d'argent lié au trafic de stupéfiants. C'est évidemment l'une des conséquences du trafic, le blanchiment d'argent. C'est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions précitées. L'idée, c'est de rendre l'argent propre et donc de retirer toute trace du trafic. Eh ben, même sanction que pour tous les autres, 10 ans d'emprisonnement et seulement 750 000 euros d'amende. Là, on a retiré un zéro, c'est 10 fois moins. Par ailleurs, petite précision, le fait d'aider une opération de placement, dissimulation ou de conversion du produit tiré de l'infraction de trafic de drogue est également puni par les mêmes peines que je viens de vous citer. Nous voilà donc arrivés au bout de ce listing des délits potentiellement liés au trafic de stupéfiants. On voit bien qu'on est au taquet des délits. Je vous rappelle que les délits jusqu'à 10 ans de prison, donc là on est au peine maximale, au peine plafond. Et là je vous parle juste seulement du trafic, hein. Je ne parle pas de tous les à côté, les actions à côté, les règlements de compte qui sont liés au trafic et qui là dépendent plus du crime que du délit. Qui dit délit dit jugement en tribunal correctionnel, donc par des juges professionnels. Et c'est intéressant de noter que dernièrement, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a trouvé assez étrange que lorsque quelqu'un trafique des stupéfiants, il est jugé par des juges professionnels devant un tribunal correctionnel, alors que dès qu'il rentre dans des règlements de compte liés à ce trafic, donc à des meurtres potentiellement, voire des assassinats, il est jugé par un jury populaire devant une cour d'assises. Il y a peut-être ici une harmonisation à trouver dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Voilà, je vous laisse là-dessus, un épisode pas forcément très funky, hein, mais bon, c'est l'actualité. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao la team! Et voilà, c'est la fin de l'épisode, j'espère que vous aurez appris des choses. Encore une fois, si vous voulez me donner un petit coup de pouce et m'aider dans le référencement du podcast, je vous invite à laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, et également laisser un avis sur Apple Podcast. Déjà, ça me fait vachement plaisir, et en plus, ça convainc d'autres personnes d'écouter. Alors, merci d'avance. À plus, la team. Vous voilà arrivé au bout de l'épisode, et vous êtes plus proche de devenir juriste qu'hier. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous souhaitez échanger, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou par mail. Tout est dans la description. Encore une fois, je compte sur vous pour laisser un avis et une note si vous avez apprécié le contenu. Merci d'avance. Juridiquement vôtre. Thomas.